bah ça c'est pas dur quand même. Je suis loin après comme mon nom.
Vous vous mettez comme vous voulez.
Comme je veux. Bon, alors je me présente donc, hein. Daniel Labbé, hein, habitant Urville, hein, on va dire 79 ans.
Vous êtes né où et quand?
Ben, je suis né le 1er janvier 1933, ici à Urville.
Dans cette maison?
Dans cette maison où j'habite encore actuellement, voilà.
Et c'est une sage-femme qui vous a accouché?
Non, non, c'est une sage-femme qui venait de, je crois, de Champignol, du pays voisin. C'était comme ça que ça se passait autrefois. Hein, c'est une dame qui se déplaçait, qui allait accoucher dans les maisons.
Et vous avez des frères et sœurs?
Non, je suis tout seul, fils unique, comme on dit.
Que faisaient vos parents?
Ben, mon père faisait la vigne, comme bien entendu. Au départ, quand il était jeune, comme garçon, jeune, il habitait Arconville, le pays voisin. Et il faisait un peu le cantonnier communal, il n'avait pas beaucoup de métier, et il avait un petit peu de vigne comme ça se faisait à cette époque. Ma mère était d'origine ici, habitait ici, à côté, faisait exclusivement, mes grands-parents étaient exclusivement viticulteurs. Voilà. Depuis déjà plusieurs générations, on les retrouve quand on recherche donc, comme viticulteurs.
Pas vigneron, viticulteur.
Ouais, vigneron, si vous voulez appeler ça comme vous voulez, oui.
On disait viticulteur.
Non, on disait plus vigneron à cette époque. Oui, c'est vrai que le mot viticulteur est plus... Bon, maintenant, c'est vigneron, on va dire vigneron tout du long. Alors, on est parti comme ça.
Vous avez connu vos grands-parents?
Très peu. Non, j'ai connu ma grand-mère parce qu'elle avait divorcé. Elle était repartie habiter à Reims. Donc, je l'ai connu, mon grand-père. Il est décédé, j'avais 2 ans, je crois. Donc, je n'ai pas connu pratiquement mon grand-père.
Et vous êtes allé à l'école où?
Ben, au village, à Urville, c'est tout ce que j'ai fait comme école. Et puis après, une petite formation viticole à Bar-sur-Aube, c'est tout ce qu'on a fait.
Et ça allait de soi d'aller faire cette formation?
Oui, c'est tout ce qu'on faisait. C'était comme ça à cette époque. Hein.
C'est ce que vous vouliez faire ou...
Ben, au départ, si vous voulez, quand les années 50, puisque ça remonte ça aux années 1950, hein, la vie n'était vraiment pas prospère ici dans notre région. Et mes parents voulaient à tout prix que je parte, comme beaucoup sont partis de Champignol, des pays voisins, travailler en ville, à SNCF, enfin tout ça, EDF et ainsi de suite. Et se sont fait des bonnes situations. Moi, je me suis entêté à vouloir rester au village. Je suis resté donc à Urville. Et puis, j'ai démarré la vigne très modestement. Hein. Puis, petit à petit, ça s'est un peu amélioré. Donc, j'ai terminé. Ça allait quand même mieux qu'au départ. Quoi.
Parce que quand vous étiez enfant, vous vous souvenez être allé aux vignes?
Oui, je me souviens très bien d'avoir été aux vignes.
Racontez-moi.
Oui, on va vous raconter tout cela. J'allais aux vignes, bon, enfant, même très jeune, avec mon père, même travailler dans les bois, travailler dans les vignes. C'était à cette époque, vous savez, à 15 ans, on était déjà employés sur l'exploitation. Hein. C'était une époque très difficile quand même, parce que nous, ici, si vous voulez, c'était contrairement à d'autres régions de l'Aube. Ici, il y avait un petit noyau qui était resté viticole, c'était les villages d'ici autour. C'était donc Urville, Arconville, Barreauville, Champignol, Bergère, Bligny, puis Murville. Et puis après, quand on descendait dans la vallée, les terres étant plus gélives, tout le monde était parti pratiquement. Ici, on était resté. Mais on avait un inconvénient, c'est que la vigne était difficile quand même. C'était un peu juste pour vivre. Suivant d'autres régions, la région de Bar-sur-Seine n'ont pas eu du tout la même évolution qu'ici, si vous voulez. Ici, on avait un petit défaut, c'était pour vivre. On faisait beaucoup de polyculture. La polyculture, ça donnait un petit peu d'argent. On avait, tout le monde avait 2 à 3 vaches. Ce n'était pas la grosse exploitation. Un cheval, on s'associait avec un autre vigneron pour avoir 2 chevaux pour faire une charrue. Dans les cultures, ce n'était pas évident du tout. Et faisant les deux métiers, il n'y en avait pas un sur les deux de très bien fait. Ça se comprend. C'est tout simple. Quand on allait aux vignes, quand on faisait la culture comme on la faisait nous, quand on faisait du foin, on fait du foin malheureusement quand il fait beau. Quand il fait, le temps est beau, quand il fait soleil. La moisson, c'est pareil, on fait la moisson quand il fait beau. Donc on allait plutôt aux vignes quand il faisait moins beau. Et donc la réussite dans les vignes, on attrapait des maladies, le mildiou, tout ça. Quoi. On avait beaucoup moins de bons résultats qu'on aurait dû avoir en vigne. Mais on était un peu tenu de faire les deux parce que bon, les vaches, tout ça, ça, comme on disait, les vaches étaient pour la femme qui entretenait l'exploitation avec son enveloppe de lait tous les mois. Et puis le peu de culture qu'on faisait et la vigne, c'était l'homme qui achetait tout ce qu'il fallait pour faire tourner l'exploitation. C'était un peu vu comme ça, si vous voulez. Je résume un petit peu tout ça, mais c'était une drôle d'époque. Alors que dans d'autres régions viticoles, il y avait moins de polyculture, ils ont démarré peut-être plus vite à la reconstitution, ils ont démarré plus vite qu'ici, si vous voulez. Ici, ça a traîné assez longtemps.
Et comment était l'exploitation, justement?
Justement, c'était des très petites exploitations. Hein. C'était des exploitations qui ne faisaient pas 2 hectares. Hein.
Et vous, celle de vos parents?
Bah pareil, elle faisait 1,5 hectare à peu près, celle de mes parents. C'était dur. Hein. À cette époque-là, les rendements étaient très médiocres. Hein. On travaillait sur des rendements à peu près, disons, de 4 000-5 000 kilo hectares. Puisqu'en 1956, tout le monde avait revendiqué une bonne récolte, on avait fait 6 000 kilo l'hectare. Aujourd'hui, on serait ridicule et on dirait ça aux jeunes, les 6 000, on ne peut pas vivre avec ça, ils nous diraient. Mais c'était quand même cette époque. Hein. Très dur, quoi. On a eu même une année terrible, c'est l'année 1957. 57, il y a eu 2 gelées consécutives et on a fait à peu près de moyenne 200 kilos hectares. Puisque nous, c'était la première année que la coopérative s'est installée là-haut, alors c'était du village, et la coopérative à elle toute seule, elle a pressé 10 000 kilos pour tous les hectares qu'elle avait. Et s'il y avait, mettons, je vous dis 40 ou 50 hectares à cette époque à la coopérative, vous vous rendez compte du rendement ridicule, quoi. C'était pas possible de vivre avec ça, donc d'où la fameuse polyculture, je vous dis, c'était pas heureux, mais ça dépannait beaucoup les petites exploitations.
Et qu'est-ce qu'ils produisaient?
Mais ils faisaient du blé, le lait, je vous l'ai dit, bon, le lait, puis le blé, un peu de l'avoine pour le cheval, et peut-être tout, on vendait quelques quintaux de blé, et puis c'est tout, hein, et puis je vous dis, c'était pas.
Et la vigne, c'était quoi?
La vigne, ben, c'était bon, il y avait encore un peu de gamay à cette époque, et puis on commençait à reconstituer en pinot, quoi, c'était le. Puisque là, vous savez que la reconstitution, on tombait dans la deuxième reconstitution après 1927. Et là, il y avait eu 18 ans après 1927 pour avoir le droit de reconstituer toutes les.
Attention un peu à vos mains, de ne pas trop taper.
Oui, je fais du bruit là. Et comment?
Donc après
C'était
27.
difficile. Et puis avec la guerre, ben, il fallait faire rallonger, puisque pendant la guerre, il y a eu aucun travail. Mon père était prisonnier pendant 5 ans. Ah, mais j'ai eu des coups durs là. Pendant 5 ans, donc si vous voulez, la reconstitution ne s'est pas faite. Donc il y a eu jusqu'à 1952 pour déjà reconstituer un peu les vignes, et puis après, bon, il y a même encore eu des arrangements pour finir de reconstituer le vignoble en pinot, quoi.
Vous aviez 6 ans à la déclaration de la guerre.
J'avais 7 ans. En 1940, j'avais 7 ans. J'étais pas vieux. J'ai fait la guerre, bon. Ici, on ne peut pas dire qu'on ait énormément souffert de la guerre, hein, des privations et tout ça, parce que dans le monde agricole, bon, tout le monde avait son jardin, son champ de pommes de terre, comme un petit peu tout, quoi. Ça permettait de vivre. Mais j'ai eu un coup terrible, c'est ici, à la Libération. À la Libération, ici, bon, de 1944, qu'on a été libéré au mois de août et septembre. Et on a été libéré par les Américains, et ensuite, il est passé là. La deuxième DB, la division du général Leclerc, qui stationnait à Arconville, et puis il y en avait plein de villages. Et nous, les gamins, quand j'avais 11 ans, c'était terrible pour nous de voir les soldats, parce qu'ils nous donnaient tout. Ils avaient les fameuses rations américaines, et ça, il y avait du chocolat, il y avait tout, ils nous en donnaient, je ne les quittais pas. Et ça ne m'a pas réussi beaucoup, je suis encore là. Il y a un soldat qui nettoyait son arme, peut-être pas une grande formation militaire, le pauvre, je ne sais pas. Il nettoyait son arme chargée, le pauvre. Et l'arme est partie, et moi j'ai pris la balle. Et j'ai couru une dizaine de mètres, et je suis tombé, et tout le monde dans le village a dit, le Daniel est mort. Parce que non, j'étais pas mort, j'étais soigné très bien par l'armée, qui m'ont emmené tout de suite à l'infirmerie de campagne à Champignol, qui m'ont donné de la morphine, caféine, et puis qui m'ont transfusé du plasma américain. On m'a mis du sang américain en 1944, et vous voyez, aujourd'hui, tout va bien, quoi. Je me suis bien sorti, en fin de compte. C'était là-bas, elle était rentrée là, puis elle était sortie, tiens, ici. On voit la cicatrice encore. Hein. Le poumon était touché, donc je perdais beaucoup de sang, si vous voulez. Voilà. Et mon père était prisonnier. Il est rentré qu'en 45, lui.
Ce qui
était? Ben, il était assez au nord, là-bas, entre l'Elbe, pas loin de la Pologne, je crois qu'il était prisonnier, en Allemagne. Alors, c'est ma mère qui a géré l'exploitation pendant toute la guerre, et puis après ces femmes qui avaient géré l'exploitation toutes seules, on les a remerciées, on les a décorées du fameux mérite agricole. C'était comme ça à cette époque, quoi.
Et vous vous souvenez un petit peu peu pendant l'occupation?
Ben pendant l'occupation, oui, je me souviens un petit peu, mais enfin, c'était assez vague, quoi. On était assez tranquille dans nos villages, nous, hein. On peut pas dire qu'on a été beaucoup dérangés ici dans nos petits villages. Il y a des villages qui ont eu des coups difficiles, mais ici, non.
Préparer des colis?
Elle envoyait des colis à mon père, oui, tout souvent. Il fallait choisir ce que nous envoyions au père. C'était des choses qui, pas périssables, comme bien entendu, comme des gâteaux, c'était des pains d'épices, c'était des choses comme ça, quoi. Des choses qui se gardent très bien et qui ne risquent pas de périr, hein. Parce que les colis mettaient beaucoup de temps pour arriver. Voilà.
Et vous l'accompagniez pour aller envoyer les colis?
Oui, je me rappelle, on envoyait des colis à Barcelone. Oui. Il fallait aller souvent à Barcelone pour me déposer des colis à la poste. Ou à Bligny, il y avait une poste aussi, ici, il n'y en avait pas. Voilà tout. Puis maintenant, bon, il faut que je continue par.
Alors, ensuite, au moment où votre père est revenu, il y avait encore la vigne était encore cultivée
Oui, la vigne avait été cultivée, quoi, comme elle avait pu, quoi, comme avec les moyens qu'ils avaient, comme de bien entendu. Hein. Mais enfin, la vigne était encore, mais c'était essentiellement encore de l'ancien cépage. Il y avait un petit peu de pinot, mais vous savez, à cette époque, il n'y avait pas les clones qu'on connaît aujourd'hui, et les variétés de pinot qu'on avait n'étaient pas très, très, très productives. Et puis, il y avait beaucoup de gelées de printemps, ça gelait énormément au printemps, donc les récoltes étaient très faibles. C'était ridicule presque comme récolte. Une époque très difficile. Jusqu'aux années 50, puis à partir des années 60, bon, la reconstitution s'est effectuée, on a dû commencer à avoir déjà des vignes de meilleure qualité, et puis bon, la production s'est améliorée, quoi.
Alors pourquoi vous êtes orienté vers la viticulture et pas l'agriculture?
On s'est orienté uniquement vers la
Et vous,
viticulture.
pourquoi? Dans vos études et puis pour plus tard?
Ben, je sais pas, j'étais entêté à vouloir rester ici, j'y ai cru, quoi, c'est tout, quoi. On ne sait pas pourquoi. J'aurais peut-être pas dû, mais enfin maintenant je ne.
Non, il y avait une raison, vous étiez
Non, non, parce
attaché.
que j'étais attaché à ça, quoi. Ça me plaisait, quoi, disons, certainement. Je ne sais pas exactement, c'est comme dans toute chose. Hein. J'ai voulu rester ici alors que tout le monde, beaucoup s'en allaient, quoi, autour de moi. Et il y avait une différence avec aujourd'hui qu'il faut dire aussi, c'est que ceux qui s'en allaient, bon, ils avaient une chance énorme à cette époque, c'est qu'on trouvait du travail facilement. Et qu'ils se sont fait des belles situations parce qu'ils avaient envie. Moi, je les vois tous, beaucoup sont revenus en retraite avec des très belles situations. Tant mieux pour eux. Moi, je ne regrette pas d'être resté là parce que la vigne s'est améliorée au fil des années, quoi. La situation du vignoble s'est améliorée. Maintenant, je peux dire que quand j'ai terminé, bon, la situation était correcte, quoi, de la vigne.
Et quels étaient les travaux alors au sortir de la guerre? Vous étiez un petit peu plus dans l'exploitation. Quels étaient les travaux durant l'année dans la vigne?
Dans la vigne, mais on avait la taille, comme bien entendu, il n'y a rien de changé avec aujourd'hui. On taillait la vigne, il y avait le palissage comme aujourd'hui. La culture se faisait avec des chevaux, avec un cheval, une charrue, ça revient un petit peu aujourd'hui, on en voit un petit peu. Le sulfatage, ce qui me peinait le plus, c'était les traitements. Le traitement, l'anti-mildiou de la vigne. Parce que ça se faisait avec un bidon à dos. Vous savez, le Velmorel qu'on avait dans le dos et qu'il fallait pomper. Alors ça, j'ai 18 ans, je n'étais pas d'une corpulence énorme, moi. Et je peinais terriblement. J'ai vraiment apprécié la première sulfateuse qui arrivait ici. C'est les premières sulfateuses traînées par un cheval. C'était dans les années 52-53. Moi, j'étais à l'armée en 54, là, mais enfin, c'était le moment où il arrivait les premières sulfateuses. Et ça, c'est la machine quoi qu'elle marchait pas très bien la mienne, mais j'ai beaucoup apprécié la première sulfateuse parce qu'on n'avait plus le bidon dans le dos.
Ça marchait pas très bien.
Non, parce que moi j'en avais, j'ai discuté ce matin avec M. Drapier encore de tout ça. Lui, il en avait une qui était très dure, avec c'était une bobarde avec une pompe dans l'essieu, tirée par un cheval, et comme c'était raide, la vigne à eau, il mettait des fois deux chevaux sur la sulfateuse. Alors que nous, on n'avait qu'un cheval, on en avait pris une avec un moteur auxiliaire, si vous voulez, donc elle était moins dure à traîner pour les chevaux, à tirer. Mais alors le moteur, quand il n'avait pas envie de marcher, qu'il était chaud, on s'énervait avec ça, c'était une vraie catastrophe. Enfin, c'était le début avant les enjambeurs, quoi. Ça avait déjà beaucoup amélioré le sort des vignerons, la sulfateuse, parce que le bidon à dos, c'était quand même pénible. Hein. Quand vous faisiez une journée avec ça, le soir, on était complètement dans les coteaux, hein, c'était très dur.
Alors ensuite, il y avait vraiment.
Ben après, on avait le palissage, je vous l'ai dit, c'était bon. Les traitements étaient difficiles déjà, il fallait essayer de jongler, je vous l'ai dit, entre les travaux des champs et les travaux des vignes. Ce n'était pas facile à concilier les deux ensemble. Mais après, il y avait les vendanges. Les vendanges, d'une manière générale, ça se passait assez bien.
Alors, ça se passait comment?
Ben, ça se passait un peu comme aujourd'hui, on trouvait du monde hein, assez facilement. Et puis, on amenait ça, on ramenait le raisin au pressoir qui était pressuré et commercialisé comme on le fait aujourd'hui. Parce que ici, on avait constitué en 1900 pochards. Je vais la mettre là, des fois la mémoire. On n'avait plus de coopérative ici, si vous voulez. Ils m'ont ramené ça ce matin. Il y avait une coopérative qui avait été faite ici. Donc on livrait, comme on fait encore aujourd'hui, on livrait le raisin à cette coopérative, quoi.
En quelle année elle a été faite?
Je vous le dis parce que j'ai assez moi. Oui, oh, 80. Attendez. C'était son premier, en 1900. Disons 1950, là, je... 1950, la première année de la coopérative, on utilisait, donc je vois bien, je me rappelle quand même, puisque j'étais 25 ans président. Alors,
Et avant, vous le vendiez à qui?
ben, on vendait comme aujourd'hui, aux maisons de champagne, quoi.
Avant la coopérative?
À la coopérative ou la
Mais
coopérative.
avant la coopérative?
Ah ben avant, le raisin était livré à des pressoirs particuliers. Il y a quelques gros viticulteurs du village qui avaient des pressoirs et on leur apportait le raisin. Ils pressaient, ils vendaient, je ne sais plus à qui, mais enfin, on leur amenait le raisin, c'est eux qui l'exploitaient après, quoi, qui le pressaient et le commercialisaient.
Et ça gagnait? Pas trop.
Oui, ça gagnait bien sa vie, ça. C'est pour ça qu'on a voulu faire une coopérative en 1950.
Et avec qui vous l'avez fait?
On était un groupe de viticulteurs, peut-être 20, je sais pas, 20, 25 viticulteurs dans le village quand même, et je vois qu'on a utilisé, je me rappelais quand même, enfin on n'avait pas le moyen d'acheter un pressoir malgré tout, et on a utilisé un pressoir qui appartenait à un courtier de la Marne, qui était la maison de Tassigny, ils étaient propriétaires d'un pressoir ici, et on allait pressurer sur nos raisins sur ce pressoir, c'est eux qui achetaient le vin, qui le revendaient quoi, des maisons de champagne, si vous voulez, voilà. Et puis en plus, en 1950, en 1954, on a acheté, c'est ce que je vois, enfin, je me rappelais quand même un peu, notre premier pressoir qu'on a installé dans une grange, disons. Et puis alors, on travaillait à notre compte cette fois-là, on travaillait sur notre matériel à nous. Et puis en 1957, on a fait donc bâtir le bâtiment qui est là-bas, la coopérative qu'on aperçoit à la sortie du village. Et on a commencé à pressurer des raisins en 1957. C'est pour ça qu'on en a un souvenir terrible. La première récolte, elle a été pour toute la coopérative. Il y avait deux pressoirs de 4 000. On a pressé 10 000 kilos de raisins. C'était ridicule, vous voyez. Une récolte ridicule. Puis après, bon, on a continué. Maintenant, il y a une grosse installation.
Et quel nom vous lui avez donné à cette coopérative?
Coopérative Vinicole d'Urville, elle n'a rien, un nom de toute simple, quoi. Elle ne champagnise pas, hein. C'est-à-dire que si on peut parler coopérative, ou c'est une coopérative, elle a le statut coopératif, mais disons, on pourrait presque parler d'une cuma, quoi. Parce qu'elle est utilisée, si vous voulez, encore aujourd'hui, hein, mon fils l'en sert, elle est utilisée pour pressurer, pour vinifier. Ils font la mise en bouteille à la coopérative. Alors, il y a une partie, il y a trop de possibilités à la coopérative, il y a une partie qui est commercialisée en raisin. Aux négociants, il y a une partie qui est en spéculation, celui qui veut se garder des quelques bouteilles pour se faire une réserve pour vendre après, et puis il y a une autre partie, comme nous on fait, qui est mise en bouteille, et nous, on reprend nos bouteilles à la coopérative, on les champagnise à la maison et on les vend nous-mêmes. Oui, il y a trois possibilités.
Et là, vous avez une marque?
Ben non, on vend sous le nom, notre nom à nous. Chaque coopérateur vend sous son propre nom. Il n'y a pas de marque. La coopérative n'a aucune marque de champagne, ni rien, ne champagnise pas du tout.
Donc c'est votre marque?
Oui, j'ai vendu au nom du champagne d'Abbé, tout ça, tout bêtement, quoi.
Et ça fait combien de temps que vous vendez, que vous champagnisez, que vous vendez?
Oh, ça fait, attendez, c'est peut-être 40 ans à peu près. J'ai commencé avec mon père un tout petit peu, ça faisait quelques bouteilles. C'était modeste, et puis petit à petit, on monte un petit peu, quoi. Tout en restant un petit peu, il faut quand même rester coopérateur, on est tenu d'avoir un certain engagement avec la coopérative, quoi, pour la faire travailler, comme bien entendu. Voilà.
D'accord.
Alors moi, j'ai été 25 ans président, je vous dis, De 74 à 99.
De la coopérative.
J'étais président de la coopérative.
Alors, qu'est-ce que ça apporte, la coopérative?
C'est-à-dire, ça n'a pas que des avantages, mais ça n'a pas que des inconvénients. On est moins, si vous voulez, chez soi. On n'a pas d'installation propre à soi. Hein, parce que on ne peut pas dire on va montrer nos installations, on n'a rien. On a juste des installations de finition de la bouteille. Mais d'un autre côté, ça revient beaucoup moins cher. Les frais, on travaille. Parce qu'en travaillant tous ensemble, c'est sûr, c'est moins onéreux. Hein. Les frais de la bouteille sont moins forts en travaillant comme cela, quoi. Ça permet d'avoir des installations très modernes, ça permet d'avoir une cuverie exceptionnelle, quoi. Ils ont une cuverie là-haut qui est magnifique. Hein, puis la mise en bouteille, tout ça en étant groupé, mais on arrive à des prix beaucoup moins. Hein, on arrive à des prix de revient moins élevés, c'est sûr, c'est normal ça. Hein, que si chacun fait l'espace, que chacun fait son exploitation chez lui, ses installations, tout ça c'est très bien, mais c'est quand même très cher. Il faut faire des emprunts, il faut l'amortir alors que là on n'a rien de tout ça. On paye par contre une petite prestation à la coopérative. Il faut bien amortir les installations là-haut, c'est normal ça. Hein. C'est pas non plus tout cadeau, quoi. Enfin, c'est vraiment avantageux de ce sens-là, quoi.
Et qu'est-ce que fait un président de coopérative comme vous, vous avez fait?
Bien, il est chargé de représenter le conseil d'administration, la coopérative, et de gérer la coopérative, quoi.
De gérer quoi?
Ben, tout ce qu'il y a à gérer, quoi. Traiter les marchés, enfin, s'occuper un peu de tout, quoi. La gestion de la coopérative, surveiller aussi le travail de la coopérative, des vins, tout ça, quoi. Et puis gérer les marchés pour vendre des raisins, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on est regroupé à l'Union Bosse, vous savez, vous devez connaître, à Bar-sur-Seine, tout ça, c'est plus facile, disons.
Et est-ce que vous pouvez me décrire l'évolution? Au début, vous avez commencé avec combien d'hectares, puis...
Bien, j'ai commencé, disons, avec mes parents, je voulais dire à peu près 1,5 hectare, parce qu'on ne parlait même pas en hectare dans cette époque-là. On parlait en homme de vigne. On disait, t'as tant d'hommes de vigne. Parce qu'un hectare, c'était énorme pour les gens de cette époque. Tout le monde dit, j'ai tant d'hommes de vigne. Un homme, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'un homme peut travailler d'une journée, la surface, à travers ses 5 arts 27. Un homme, c'est 5 arts 27 de vigne. Alors déjà, beaucoup de personnes disaient, ça fait à peu près un hectare. Dans un hectare, on a à peu près 18 hommes de vigne. Et beaucoup disaient, oh ben, j'ai 30 hommes de vigne. 30 hommes de vigne, c'est une exploitation. On s'exprimait comme ça à cette époque-là, si vous voulez. C'était assez intéressant, assez drôle, mais enfin, c'était comme ça, quoi. C'était comme en vigne, on avait le journal ou un arpent en terre agricole. Il y avait des mesures aussi comme ça, un peu, qui représentaient ce que... Une charrue peut faire dans la journée, là c'était ce qu'un homme peut faire avec travaillant la main dans la vigne, quoi. C'était estimé comme ça. Dans d'autres endroits, c'est dans la main, ils appelaient ça une fête, je crois. C'était un autre nom, chaque... Voilà, alors nous aussi, c'était courant de dire on a 30 hommes de vigne, quoi. C'était ça, c'est on explique ça. Au lieu de dire 1,5 hectare, on allait dire 28 ou 30 hommes, qu'on arrondissait comme ça, quoi. Alors moi j'ai donc démarré avec 1,5 hectare, si vous voulez, de vigne, avec mes parents. Puis petit à petit, ben, c'était difficile. Au début c'était très, très facile d'acheter des terres. On nous les donnait, les terres viticoles. C'était incroyable même. Il y a des gens qui disent, oh, tiens, je les donne, je ne paierai plus d'impôts. Ça n'a pas duré longtemps, comme vous devez vous en douter. Ça a vite augmenté. Maintenant c'est venu à des prix énormes. Mais malgré tout, on aurait pu faire beaucoup mieux à cette époque. On achetait beaucoup plus. Mais enfin, on y croyait, mais enfin, comme c'était pas très prospère, on n'osait pas trop s'engager, et j'aurais pu avoir beaucoup plus de vignes que j'en ai eu quand j'ai terminé. J'ai terminé à peu près, je vais vous dire, à peu près environ un peu plus de 6 hectares de vignes plantées. C'était déjà mieux, plus que des terres à planter. J'ai donné à mes enfants, puisque j'ai encore de petites donations à faire, ça va être terminé, mais c'est le problème des successions aujourd'hui qui est très difficile. Parce que les prix sont très élevés. Mettons que je leur ai donné vigne et terre à hausser, 10 hectares, quoi. Voilà.
Pourquoi c'est difficile?
Parce que les prix sont terribles. En vigne, en ce moment, un hectare de vigne, je ne sais pas, ici, on vient d'en acheter un petit peu, le fils, je peux vous le dire, mais on approche le million à l'hectare. 1 million d'euros à l'hectare. Enfin, lui, il a acheté, je crois, dans les 800, je ne sais pas combien, parce qu'il a encore loué pour plusieurs années. Vous voyez, entre 800 000 et 1 million d'euros. Alors, c'est pratiquement impossible d'amortir. On ne peut pas l'amortir, ça ne peut pas. Il faut déjà, pour payer ça, il faut au moins déjà 20 récoltes. Donc il faut faire déjà la vigne 20 années pour rien. Je m'amuse, je travaille là-dedans pour rien. Je mets des produits pour rien. Et après 20 ans, ben je commence à gagner un petit peu quelque chose. Et je suis très modeste, il faut même plus de 20 ans. S'ils en prennent tout, il faut plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'un vigneron qui aurait, mettons, 2 hectares de vigne, il veut en acheter un troisième à ce prix-là, 9 fois sur 10, il se coule, parce qu'il en prend de l'argent et il ne peut jamais rendre. Si c'est une grosse exploitation, bon, c'est sûr, il va diviser ses charges sur de beaucoup de plus grandes surfaces, mais un petit vigneron, on ne peut pas acheter. Nous, on a acheté 25 heures, bon, parce que c'était dans nous, on était un petit peu obligés cette année, quoi. De l'acheter, c'était au milieu de notre... On va dire, on va pas la laisser partir quand même. Mais enfin, ça fait déjà un petit peu d'argent, quoi. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre? J'en sais rien, moi. Il y en a à dire sur la vigne, mais enfin.
Ben, vous m'avez dit, au niveau des travaux, que c'était assez différent. Quels étaient les outils qu'il y avait à l'époque? Comment on travaillait? Quelle méthode?
Au début, vous voulez, les premières années, bon, mes parents, il y avait le cheval, nous déjà, il y avait déjà la charrue avec le cheval. Mais avant, les vignes étaient travaillées uniquement à la main. C'est-à-dire, bon, il y avait ce qu'il appelait ici une pioche, si vous voulez, un pic, etc. Donc je vous montrerai tous au musée. Et puis après, il y avait les fameux fousseux qui cultivaient la vigne à la main, quoi. C'était des outils, c'était uniquement manuel, la vigne à cette époque-là. Bon, après, on est arrivé avec les premières charrues, les charrues à vigne, qu'on appelait. Donc, bon, aujourd'hui, ils en ont des meilleurs, mais on avait deux, trois modèles de charrues qui étaient fabriqués localement. Et avec un cheval, on cultivait moitié du rang descendant, moitié en montant. Parce qu'on cultivait un rang totalement à cette époque, avec les engins qu'on avait, c'était trop pénible pour le cheval. Aujourd'hui, bon, ils sont des charrues plus faciles à manipuler. Mais j'en ai, je vous montrerai tout ça tout à l'heure.
Le cheval, c'était pas non plus...
Ben c'était déjà bien le cheval. C'était déjà une grosse amélioration. Mais pour ça, on avait abandonné l'histoire des vignes très anciennes, qui était la fameuse vigne en foule. Les vignes en foule, c'était des plants plantés un peu n'importe comment. Hein. Ça, c'est non. Il fallait déjà avoir une vigne bien alignée. Bien... Enfin, le cheval a déjà été une grosse amélioration au niveau de la viticulture. C'est ça. Hein, c'est... Ensuite, bon, la sulfateuse, je vous l'ai dit, et puis après le tracteur en chambeur, c'est autre chose. Hein. C'est une époque beaucoup plus facile.
Et vous êtes parti quand pour le service?
Enfin, au mois de novembre 1953.
Vous vous souvenez quand on vous a appelé?
Ah oui, je me rappelle quand même, c'était au mois de novembre, j'étais incorporé à Grenoble, dans l'armée, dans un régiment de montagne. C'est bizarre pourquoi j'étais là-bas, mais ça vient de suite à ma blessure, ça je pense. Parce que quand j'étais incorporé, ils m'ont quand même emmené à l'armée. J'étais quand même incorporé, mais ils m'ont mis 3 semaines en observation d'un hôpital à Chalon-sur-Marne, comme on l'appelait. Ce n'était pas Chalon-Champagne, c'était Chalon-sur-Marne. Et bon, et quand je suis après, bon, ben, ils m'ont incorporé dans un régiment de montagne avec interdiction de faire du sport. Voyez-vous, c'était un peu spécial. Bon, c'était un régiment d'artillerie de montagne. J'ai été libéré au bout de 15 mois. On avait été avantagé à cette époque-là. J'avais été libéré au bout de 15 mois, très content, mais manque de chance, on a été rappelé au mois de septembre. Donc j'ai été rappelé dans l'Est, là, à Chalon, à côté de Chalon, à Mourmelon, et après on est parti au Maroc. Et j'ai fait 3 mois, moins 8 jours au Maroc, je vous dis pourquoi moins 8 jours, parce qu'il faut faire 3 mois à l'étranger au Maroc pour avoir le droit de la carte de combattant. Et j'ai fait les 3 mois, moins 8 jours, il manque 8 jours pour avoir ma carte de combattant. C'est pas que c'est formidable la carte de combattant, mais ça donne certains avantages quand même. C'est parce que ça compte au niveau des impôts, ça compte une demi-part. Ça m'intéresserait de l'avoir uniquement pour ça.
Mais qu'est-ce que vous avez fait au Maroc alors?
Ben, on faisait ce qu'il appelait du maintien de l'ordre, on n'a pas eu de problème. Là, notre séjour au Maroc s'est très bien passé. Hein, on était assis dans le sud, dans l'Atlas, je sais, ça vous dit quelque chose. Sud marocain, quoi, un petit peu au sud de Marrakech. Quoi. On n'a eu aucun problème, c'était là, que ce soit ici ou là-bas, c'était pas mal du tout. Quoi. Enfin, y aller, c'est tout. Quoi. On n'a pas eu de combat, on n'a rien eu du tout. Non.
Et vous êtes marié en revenant?
Oh non, j'ai attendu longtemps pour me marier, puisque je me marie en 1966 et j'avais 33 ans. Rendez-vous compte. Il était bientôt temps que j'y pense. Hein. Je sais pas, je me plaisais dans la vie indépendante, j'ai beaucoup aimé la liberté, moi je crois. Ça doit être ça mon problème, je crois. Croyez pas que si je suis pas parti, c'était pas un peu pour ça, quand j'étais jeune. Parce qu'ici, c'est sûr, on avait une liberté, on faisait ce qu'on voulait dans nos campagnes. Alors dès qu'on est de l'administration, c'est sûr, on ne fait pas totalement ce qu'on veut. Hein, c'est peut-être un peu tout ça qui m'a un petit peu aussi. Hein. Et j'ai été long pour me marier, mais je me suis marié avec une femme du village ici, qui avait, et c'est bizarre, elle était plutôt cultivatrice, elle. Et dans sa famille, il n'y avait que des vignerons, mais comme la vigne était bien sûr pas très prospère, il s'était tourné plutôt vers l'agriculture, et son père, sa mère, étaient uniquement agriculteurs. Et pourtant, que ça soit son, du côté de son grand, de sa mère, c'était des vignerons, des courtiers en vin, même, c'était vraiment une vieille famille de viticulteurs. C'était bizarre, hein, les choses. Qu'est-ce que je peux encore... Dites-moi ce qu'il faut, vous.
Mais est-ce que vous pourriez me parler, justement, on va parler un petit peu de la coopérative viticole ici. Est-ce que vous avez pris des engagements ou est-ce que vous, autres, ou est-ce que vous avez, il y avait un intérêt d'unité des vignerons en général?
Bah, je vous dis, là, les avantages de la coopérative, je vous les ai dit un petit peu.
En dehors de la coopérative, c'est un échelon un peu plus élevé. Est-ce que il y a une unité ou il y a une union des viticulteurs, des vignerons, ou alors on est par localité, par village?
Non, ici, bon, la coopérative est uniquement, pratiquement que des gens du village. Hein. Il n'y a pas de viticulteurs que je sache des villages voisins. Ça a permis quand même de redonner peut-être de valoriser quand même un petit peu son produit par l'action que la coopérative s'est engagée avec l'Union Bourse, avec le centre vinicole de la Champagne, où bon, ces gens-là... pratiquement prennent tout leur raisin, tout notre raisin maintenant, qui est rétrocédé ensuite à des maisons de champagne, c'est vrai, mais enfin, on a quand même un peu amélioré le... Et puis je vous dis, le travail, les vignerons qui veulent travailler du vin eux-mêmes, ça leur a quand même apporté quelque chose. Parce que si chacun y allait de son côté, à se faire sa petite installation, à se faire monter son pressoir, monter sa cuverie, tout ça, ça fait quand même des charges assez importantes, alors que les vignerons ici n'ont pas ça à faire, quoi. À part ceux qui existent et qui sont installés comme ça, il y en a quand même qui sont indépendants comme ça ici au village. Mais enfin, ça fait nettement moins de charges pour les jeunes vignerons, quoi. Un jeune vigneron qui s'installe, bon, il ne peut pas tout de suite penser champagniser. Ma femme, vous ne la connaissez pas. Tu vas rester là, enfin, on parle aussi, il ne faut pas que tu parles.
Je m'en vais. Non, je vais aller m'occuper du gibier.
Ah ben oui, tu vas là-bas, oui.
Ah ben, une bonne marche.
T'as fait une marche, oui.
Pas mieux longtemps, hein.
Non, c'est bien. T'as vu personne, non?
Oh, pas un chat.
Chez les gens. Ils sont pas là.
Qui?
Chez les gens.
Oh non, c'est pas grave.
C'est un bon comment, c'est pas grave.
Ils sont partis.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Et... par rapport, vous parliez tout à l'heure de 27, par rapport aux événements de 27, de 1911, par rapport au problème du phylloxéra, est-ce que vous en avez entendu parler quand vous étiez enfant? Est-ce que vos parents
Non, non bah, ma mère me parlait beaucoup de 1911, parce que disons qu'elle avait, bon, c'était quand même beaucoup, ses parents s'étaient beaucoup investis dans cette fameuse révolte, c'est ça qu'elle me parlait. Puis moi cette année, ben, comme moi je me fais ça toute mon année, vous devez être au courant.
Mais qu'est-ce qu'elle racontait alors?
Ben, les événements, ce qu'il avait été, ceci, cela, quoi. Il y avait des tas de choses qui s'étaient passées, quoi. Hein, ça les avait quand même marqués. Hein.
Vous vous souvenez de certaines choses?
Non, pas vraiment, c'était général, mais enfin, elle me disait qu'il y avait quand même... Bon, on dit que tout s'était fait dans le calme, en vérité. Hein. Cette révolte des vignerons, elle avait été assez calme, il n'y avait pas eu de gros... Mais il y avait quand même eu, dans les villages, elle ne m'a pas détaillé tout ce qui s'était passé, c'est sûr, mais il y avait eu quand même des tiraillements, ne serait-ce que politiques ou d'intérêt derrière, hein. Il y avait quand même, ça s'était passé vraiment si calme que ça, si vous voulez. Hein. Ici, il y a eu, j'y allais aux archives justement pour compléter, puis après on verra ça, parce qu'on avait un instituteur ici, on était tous bien ensemble avec sa dame, justement, qui s'était beaucoup investi dans la révolte, et ça n'avait pas plu à tout le monde et il avait été dénoncé, il avait eu des problèmes pour cet homme.
C'était qui ?
C'était Monsieur Giroud. Monsieur Giroud, c'était quelqu'un de... Il a quitté même le ville, la commune 2 ans après et il a eu un de ses fils qui était maire de Troyes, puisqu'il y a eu un Giroud qui était maire de Troyes. Enfin, tout ça, j'ai toute l'histoire derrière un peu, mais il faudra voir. Aller aux archives pour compléter l'information de tout ça, quoi, parce qu'il y a des choses à chercher là-dedans. Mais il faut du temps, quoi.
D'accord. Vous voulez qu'on...